si je prends les négociations avec le Vatican, il nous a semblé que, à la fois du côté du nonce et à la fois du côté du gouvernement, il y avait une certaine satisfaction du chemin accompli, même si tous les deux pensent qu'il y a encore des négociations à mener pour que les conclusions du Fundamental Agreement, qui a maintenant une quinzaine d'années, arrive à la fin sur les questions fiscales, sur les questions du Cénacle, sur les questions des guides, sur les questions des visas, etc. Mais là, j'ai trouvé plutôt une atmosphère meilleure. Ensuite, eh bien, il y a une situation politique. Il y a trois choses qui m'ont frappé. La première, c'est que nous avons beaucoup entendu parler de l'extrême droite israélienne, les ultra-orthodoxes et leurs amis. Il faudrait distinguer, mais je les rassemble pour commodité. Mais ce que nous voyons, semble-t-il, c'est que tout le monde est préoccupé par la situation des colons de cette extrême droite qui se développe, qui se sent quelquefois en terrain conquis. Et c'est vrai que c'est la première fois que nous sentons qu'un certain nombre de gens regardent même les chrétiens de manière peu agréable, même les chrétiens, même les touristes. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est ce qui s'est passé autour, c'est-à-dire les printemps arabes. Il y a devant cela des décisions à prendre, même si pour le moment les printemps arabes n'ont pas beaucoup marqué la politique israélienne. Il semble de l'extérieur, en tout cas quand on entend les gens, que beaucoup se disent c'est le moment d'agir parce qu'un certain nombre de gens au gouvernement israélien, face à ces instabilités qui peuvent venir, peuvent être tentés de, par exemple, entourer Jérusalem d'un mur d'habitation de manière à ce que Jérusalem soit isolée et ne puisse pas devenir la co-capitale, si vous voulez, d'un double État. Ça me semble être une des marques tout à fait importantes de la chose. Enfin, troisième, j'ai senti, et nous avons senti, que si tout le monde est encore verbalement pour une politique des deux États, l'un palestinien, l'autre israélien, plus beaucoup de gens y croient vraiment. En tout cas, la solution devient de plus en plus fragile. Un des mots qui m'a frappé, parce qu'il a été employé par plusieurs, c'est le mot « apartheid ». C'est-à-dire que si Israël ne devient pas un pays unique et démocratique, si ce n'est pas deux nations qui occupent le territoire, chacune ayant son autonomie et son indépendance, eh bien, ce qui risque de se faire, et c'est ce qui se fait actuellement, c'est l'apartheid. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une nation et puis de l'autre côté un peuple qui n'a pas beaucoup de droits, si ce n'est de subir.
Prenons quelques autres points aussi qui ont émergé au-delà de ces thématiques très importantes, aussi très concrètement des projets, les projets de logement du patriarcat latin et de la custodie de Terre Sainte, à savoir des logements pour les chrétiens de Terre Sainte.
De fait, mais il faudrait élargir un tout petit peu, ce qui me frappe, c'est quand même que devant cette situation qui est difficile, et il ne faut surtout pas dire qu'elle n'est pas difficile, eh bien, je trouve que beaucoup des chrétiens que nous avons rencontrés ont un calme qui est assez grand, et même très grand, et qu'au fond, ils essaient de toute leur force à donner des moyens de rester sur place. Alors, contrairement à ce que je pensais, d'ailleurs, j'ai vu les statistiques d'un peu plus près, au fond, les chrétiens ont un taux de travail, d'emploi, à peu près équivalent au reste de la population en Israël. Mais le problème, c'est celui du logement. Et donc, que ce soit la custodie, que ce soit le patriarcat, que ce soit telle ou telle autre grande institution, beaucoup s'inquiètent de ce logement, mais ils ne veulent pas enfermer les chrétiens dans des ghettos. Donc, ces logements qu'ils veulent promouvoir, ils essaient de les promouvoir pour la population arabes en général et juifs éventuellement s'ils le voulaient, mais ils ne le voudront pas.
Face à cette situation, toujours donc la solidarité internationale qui est là, qui ne manque pas.
À mon avis, il faut continuer à faire quatre choses. La première, il faut aller en pèlerinage et rencontrer le plus possible dans les pèlerinages les pierres vivantes que sont les chrétiens sur place. La deuxième chose, et c'est évidemment lié au pèlerinage, mais il faut l'étendre à toute la vie, c'est prier. Et je crois qu'il nous faut croire à la prière, et je crois que dans des situations très très difficiles, cette prière est indispensable. La troisième chose, c'est, me semble-t-il, faire connaître. Je veux dire que c'est très difficile parce que nous avons tous au fond envie de ne pas mettre d'huile sur le feu. Nous avons envie de respecter les droits des Israéliens et les droits des Palestiniens. Nous reconnaissons que ni d'un côté ni de l'autre, il n'y a que des saints. Et que donc, mais il est clair que aujourd'hui la force est du côté d'Israël et que les Palestiniens, on leur a ôté petit à petit toutes les monnaies d'échange possibles pour la paix. Et tant que il faut dire à temps et à contre-temps que si on n'échange pas de la terre contre la paix, il n'y aura jamais de paix. Et donc on a l'impression que il est très difficile de faire connaître la situation sans qu'on soit pris à partie par les uns ou par les autres. Et quatrièmement, je crois qu'il faut faire pression sur nos gouvernements pour qu'on agisse vite. Si Jérusalem est encerclée d'habitations, si la Cisjordanie est complètement occupée, ou j'allais dire les routes, vous savez qu'on fait les routes particulières pour juifs en Cisjordanie, si le couloir jordanien est occupé, à ce moment-là, j'allais dire que rien ne sera plus possible. Il faut donc agir vite et il faut que nous fassions des pressions sur le gouvernement pour que l'action soit rapide et bilatérale. Être pro-israélien, c'est être pro-palestinien. Être pro-palestinien, c'est être pro-israélien.